On a fait un sacré voyage dans l'économie mondiale du XXe siècle.
Eh bien, on va passer aux choses sérieuses, hein. L'accord du plus fort, donc TAFTA, cette fois-ci on le dit bien, Transatlantic Free Trade Agreement, c'est bon, ok.
C'est dur, hein. C'est dur l'anglais.
Bon, qu'est-ce que c'est que cette concertée? En 2015 doit être donc bouclé l'accord TAFTA, donc le grand marché transatlantique, c'est-à-dire l'accord de libre-échange entre les deux plus grandes zones économiques mondiales, à savoir l'Europe et les USA. Pour nous, dit-on, abaisser au maximum les barrières commerciales, droits de douane ou normes, multiplier les débouchés aux entreprises, créer des emplois, environ 2 millions, en tout cas c'est ce qui est espéré, diversifier les productions, en abaisser les coûts et augmenter le niveau de vie. C'est génial.
Oui, bien sûr. Ça, c'est le refrain connu du marché commun européen. Mais c'est de notre vie dont il s'agit. Il s'agit de notre alimentation, de l'éducation de nos enfants, de leur santé, de notre santé, de nos droits sociaux. Et le TAFTA ne répond pas vraiment ni au problème du chômage, ni à l'urgence écologique, et encore moins, beaucoup moins, au scandale de la finance. Il faut exiger un débat démocratique et ne pas se laisser imposer la raison du plus fort.
Allons, allons, pas de catastrophisme. Le marché européen unique, la monnaie unique, l'ouverture aux échanges mondiaux ont été la base et les grands moyens de la construction européenne, Daniel. Tellement que l'Union européenne est devenue la zone du monde aux tarifs douaniers les plus légers. 2,2% sur les exportations vers les USA et 3,3% pour les importations de l'Europe en provenance des USA. Et les Européens, pour abaisser leurs coûts de production et multiplier leurs débouchés, ont signé dès demain, dès 1947, le GATT. Cette fois-ci, on ne se trompe pas, General Agreement on Tariffs and Trade, donc l'ancêtre de l'OMC. Profession de foi confirmée en ce début du XXIe siècle par José Manuel Barroso, président de la Commission, comme chacun sait.
Et résultat des courses?
Eh bien, résultat des courses, il faut souvent, sur le métier, remettre son ouvrage. En 2006, l'Union européenne a élaboré avec ses partenaires les accords Global Europe, Competing in the World, qui concernent l'ensemble du commerce, services, marchés publics, propriété intellectuelle, développement durable, normes sanitaires et phytosanitaires.
C'est ça. Et si je ne me trompe, ces accords agissaient déjà par-dessus les frontières sur les normes établies à l'intérieur des pays et modifiées à l'occasion. Les signataires ne sont donc plus maîtres chez eux. Pour un marché, c'est un marché de dupes.
Ah, sûrement pas, puisque depuis 2013, ils sont aussi appliqués avec le Pérou, Panama, la Colombie, le Honduras, le Nicaragua et le Canada. Et sont en cours des négociations avec l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Arménie, le Conseil de coopération du Golfe, Persique et le Mercosur.
C'est quoi le Mercosur?
Alors, le Mercosur, c'est le marché commun de l'Amérique latine, évidemment. D'ailleurs, le projet TAFTA est mûrement réfléchi. Il avait près de 20 ans en 2009, quand le Parlement européen a voté à la quasi-unanimité pour ce véritable marché transatlantique en 2015, après que les USA aient envisagé un rapprochement avec la Chine entre 1998 et 2005.
Mais un accord avec les USA, ça n'a rien à voir avec celui qui a été établi avec le Pérou ou la Moldavie. L'Europe et les USA échangent des biens, surtout industriels, et de même type. Ça va faire carnage sur le plan de la concurrence. Toutes les entreprises européennes, françaises, etc., qui fabriquent des produits susceptibles d'être échangés avec les États-Unis, elles vont toutes plier. Et les normes? Les normes, les conditions de fabrication européennes et américaines, elles sont différentes. Il va falloir les harmoniser. Et avec un partenaire aussi puissant, il y a du souci à se faire. Et puis, sans compter la multiplication des transports des marchandises qui va aggraver la pollution et le dérèglement climatique pour échanger des produits qui sont en grande majorité déjà fabriqués chez les importateurs.
Je veux te raconter Kissinger, l'histoire d'un de mes amis. Son nom ne te dira rien, il était chanteur au Chili. Ça se passait dans un grand stade, on avait amené une table. Mon ami qui s'appelait Jara fut amené tout près de là. On lui fit mettre la main gauche sur la table et un officier, d'un seul coup avec une hache, les doigts de la gauche a tranché. D'un autre coup, il sectionna les doigts de la dextre et jara, tomba tout son sang giclé, 6000 prisonniers criaient. L'officier déposa la hache, il s'appelait peut-être Kissinger. Il piétina Victor Jara, chante dit-il, tu es moins fier. Levant ses mains vides des doigts qui pinçaient hier la guitare, Jara se releva doucement, faisons plaisir au commandant. Il entonna l'hymne de l'unité populaire, repris par les 6000 voix des prisonniers de cet enfer. Une rafale de mitraillettes abattit alors mon ami, celui qui a pointé son arme s'appelait peut-être Kissinger. Cette histoire que j'ai racontée, Kissinger ne se passait pas en 42, mais hier, en septembre 73.
Daniel, souviens-toi, avec le plan Marshall, les États-Unis ont aidé à la reconstruction européenne et à l'élévation de son niveau de vie. Il a fallu réglementer le commerce mondial. Le GATT avait posé des principes d'égalité et de traitement des pays concernés.
Encore des gros mots. Qu'est-ce que c'est le GATT ?
Oh, revois ta culture. General Agreement on Tariffs and Trade. Le premier accord sur les tarifs douaniers, donc signé en 1947. Ces principes étaient déjà réciprocité, transparence, clause de la nation la plus favorisée, qui accorde à tous les partenaires d'un pays une faveur accordée à l'un d'eux. Réglementation nationale appliquée aux producteurs étrangers. Principe accentué par l'OMC, Organisation mondiale du commerce, qui remplace d'ailleurs le GATT en 1993.
Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Ce sont toujours les pays riches qui établissent l'ordre du jour des négociations. Et bien sûr qui remportent la mise. Ils libéralisent les échanges dans les domaines de haute technologie qu'ils maîtrisent. Mais par contre, ils vont refuser les discussions là où ils peuvent se heurter à un semblant de concurrence, en agriculture par exemple, ou dans le textile. Jusqu'à la fin des années 80, il y a 3/4 des échanges des pays industrialisés qui se sont faits avec d'autres pays industrialisés. Mais même droit, ça ne veut pas dire même possibilité. Le soi-disant multilatéralisme n'efface pas la domination des pays riches. Le Mali ne peut pas être comparé aux USA.
Oui, mais regarde, en 2001, la Chine entre à l'OMC et Américains et Européens se préparent alors à l'envahir de leurs produits. C'est aussi ça la mondialisation.
Que croyez-vous qu'il arriva ? C'est le contraire qu'on déplora. Et ceux qui voulurent délocaliser en Chine pour profiter des conditions de travail indignes locales n'ont fait que gonfler les chiffres du chômage occidental. Et à ce moment-là, l'Inde et le Brésil se sont imposés dans les négociations de l'OMC et la Chine est devenue la deuxième puissance mondiale.
Et pourtant, l'Amérique a essayé de négocier avec la Chine, mais les différences de normes semblent insurmontables.
Alors, de rage, elle a décidé d'isoler l'ennemi en se coalisant avec les pays du Pacifique et de l'Europe. Mais pour réussir, il fallait d'abord gagner l'Europe et faire avec un énorme marché qui ne fera plus qu'une bouchée de la clientèle des pays du Pacifique, quelles que soient les questions techniques à résoudre.
Tu vois, l'Europe et les États-Unis sont complémentaires.
Oui, oui. L'Europe est surtout bien utile au projet américain. Et les ONG dénoncent un certain flou dans les accords du TAFTA.
Pourtant, Bruxelles a développé une intense communication sur le sujet, sur un site multilingue avec planning intégré. Les négociateurs sont accompagnés de représentants de la société civile et des entreprises. Les points les plus sensibles du traité, comme les tribunaux arbitraux, ont été proposés à la consultation européenne en ligne du 27 mars au 31 juillet 2014, à laquelle ont répondu 149 399 citoyens, dont 9 791 Français. C'est ça la démocratie. Vous ne l'avez pas su ? Ben, c'est que vous êtes un mauvais citoyen. Toutes ces observations sont soigneusement collationnées et conservées comme prévu.
Mais ce qui n'a jamais été prévu, c'est de supprimer les tribunaux arbitraux.
De quoi ? Tu t'égares, Daniel, là. Si vous avez l'outrecuidance de vous demander comment se réalisera l'uniformité des normes ou comment lutter contre le réchauffement climatique avec des USA refusant le pétrole de Kyoto... Le pétrole de Kyoto, c'est un joli lapsus.
Oui,
le protocole de Kyoto.
Oui.
Refusant le protocole de Kyoto, méfiez-vous de vous-même, la paranoïa vous guette.
Ben voyons.
D'ailleurs, les informations du site de Bruxelles ont présenté des extraits de discours propres à édifier les lecteurs, comme « La croissance économique et la productivité accrue créées bénéficieront aux travailleurs de l'UE et des USA. Le but du partenariat n'est pas de réaliser des bénéfices commerciaux au détriment de la santé de nos consommateurs. Nous ne transigerons pas sur les niveaux de production existants. »
Mais même avec un vrai débat et un vote au suffrage universel, l'affaire risque bien d'être dans le sac. Il n'y a qu'à se rappeler du référendum de 2005, qui a quand même produit 58,68% de non au traité constitutionnel européen, et que la France a finalement traduit par une ratification parlementaire à la saison suivante. Et en plus, l'accord du TAFTA est prévu dans une forme évolutive. Ils appellent ça le Living Agreement. C'est-à-dire que le texte va être modulable sans autre procédure, pourvu qu'à sa création, une première version soft... non, faut pas dire soft. C'est du franglais. Et...
Légère.
Légère, innocente.
Ouais.
Innocente. A été signée par toutes les parties.
Ah, t'es vraiment une rabat-joie, Daniel. De toute façon, l'Europe est plus riche que les USA. Si, si, je te promets. Avec un PIB de 16 400 milliards de dollars, contre seulement 15 700 pour les États-Unis.
Mais il faut amputer notre PIB, notre produit intérieur brut, il faut l'amputer de 40%, parce que nous sommes quand même 502 millions d'Européens. Et les Américains, ils sont que 314 millions. Et puis, il faut penser aussi aux disparités qu'il y a, par exemple, entre l'Allemagne et la Roumanie.
Oh, mauvaise patriote. Si les USA sont loin devant nous en électronique, en informatique et dans la finance, c'est bien une chance que le TAFTA nous fasse profiter de leur technologie. Nos petites entreprises s'adapteront.
Ou disparaîtront, oui.
Quel esprit négatif, tu refuses le progrès. Et puis l'Europe des 28 bafouille avec ses multiples instances et présidents qui ne peuvent parler d'une même voix. Et pourtant, elle s'accroche à une rigueur comptable qui étouffe son potentiel. Enfin, je crois, les USA font marcher la planche à billets comme le font la Chine et le Japon et dévaluent au besoin en devenant plus compétitifs à l'export.
Ouais, et si leurs factures d'importation s'alourdissent, eh ben ils importent moins. Et tant pis pour nos vignobles et nos parfums.
Oui, mais...
Et nos avions.
L'Europe, elle, reste paralysée par un euro commun à des économies complètement disparates, auxquelles il est impossible d'imposer un nouveau change uniforme.
Comme dit Louis Gallois, l'euro fort renforce les forts et affaiblit les faibles.
Vous voyez bien que le TAFTA, c'est la solution pour tout le monde. Les Européens pourront bénéficier des produits US moins chers que les leurs, en échange de quoi les USA pourront fournir les clients de l'Europe avec leurs technologies plus concurrentielles.
C'est la fin du monde, je rêve!
D'ailleurs, l'Europe commence à s'adapter. Certains pays admettent les OGM et les farines animales sont réintroduites depuis 2014, ce qui constitue des signes rassurants de bonne volonté d'ouvrir et d'uniformiser le marché mondial à l'américaine.
J'ai vu les larmes aux yeux. Matin, 20% pour l'horreur, 20% pour la peur, ivre d'inconscience, tous fils de France, au pays des lumières. Nous sommes la nation des droits de l'homme, nous sommes.
rêves qu'on a fait et pour ce qu'on fera, pour le point qu'on a levé, pour celui qu'on lèvera, pour un idéal, pour une utopie. Alors marchons ensemble, enfants de la patrie, fils de France. Ça pour baisser la tête, ah oui ça t'aime bien les minutes de silence, fils de France. C'était à peine hier et déjà tu brandis le drapeau de l'ignorance, fils de France. Nous n'oublierons jamais que nous sommes, nous serons les fils de la résistance, fils de France. Au royaume des aveugles, tu sais bien ce qu'on dit, les bornes sont les rois.
Il y a ces ombres derrière nous, il y a ces idées vendues, il y a ces drapeaux qui flottent et des hymnes dessus. Et puis il y a toi mon frère, oui toi qui n'y crois plus. Et puis il y a nos prières et nos causes perdues. Honte à notre pays, honte à notre patrie, honte à nous la jeunesse, honte à la tyrannie. Honte à notre pays, revoilà l'ennemi. Allons marchons ensemble, enfants de la patrie. Nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes la nation de la tolérance. Nous sommes la nation des lumières. Nous sommes à l'heure de la résistance. Nous sommes la nation des droits de l'homme. Nous sommes la nation de la différence. Nous sommes la nation des lumières. Nous sommes à l'heure de la résistance.
Comme le montre ce qu'on appelle l'ERT, l'organisation de la table ronde des industriels en Europe pour le TAFTA, la seule finance y emploie 700 lobbies et 123 millions d'euros. Tandis que les ONG et les associations de consommateurs s'agitent en face avec 4 petits millions. Car les entreprises concurrentes s'accordent facilement pour augmenter leurs profits. Rappelons-nous le tour de passe-passe des chocolatiers, qui ont fait accepter au Parlement européen le remplacement d'une portion importante de cacao dans leurs produits par des graisses végétales 3 ou 10 fois moins chères, tout en gardant l'appellation chocolat. Business is business. À propos, il est capital que les auditeurs visionnent sur YouTube le film Bruxelles Business. Alors ça fait une heure de cauchemar, mais c'est très salutaire pour ne pas se faire tafter idiot. Et les normes, Baptiste, qu'est-ce que c'est les normes?
Les normes, c'est peu de choses, Daniel, peu de choses.
Peu de choses, mais encore. Peu de choses, vraiment. Mais c'est rien moins que les qualités minimales requises pour mettre sur le marché des produits quotidiens. Domaine sensible. Faut peut-être se rappeler de la guerre du poulet aux hormones.
Oh oui, mais les Européens ont un attachement sentimental au lieu de production de leur spécialité, ou même à leur composition. Quelle perte de temps. Aux USA, les étiquettes ne comportent ni la composition, ni le lieu d'origine du produit. Seul figure le logo de la marque et, éventuellement, le mode d'emploi. Ce qui laisse une grande surface de packaging pour habiller le produit de couleurs et de graphismes séduisants et vendeurs.
Quels artistes. Les normes assurent une certaine sécurité aux consommateurs, mais ils agissent aussi sur la concurrence, qu'elles peuvent interdire de territoire. C'est le cas des fromages français. Mais c'est aussi le cas des OGM et de la fracturation hydraulique. Au nom de la libre concurrence, le TAFTA peut, en rabotant les normes, unifier avantageusement les modes de production et remettre en question les choix de société. Avec le TAFTA, comment vont évoluer les normes pour autorisation de mise sur le marché transatlantique?
Daniel, le TAFTA promet un rapprochement des normes qui bénéficiera à toutes les entreprises.
Et tu crois ça? Il serait peut-être plus réaliste d'envisager un ajustement des normes d'un contractant à celles de l'autre, le plus puissant, évidemment l'américain. Le premier en supportant tous les coûts consécutifs. Et en industrie, c'est énorme avec la modification des chaînes de montage et tout ça. ce qui n'empêchera pas de voir le niveau des normes et la qualité correspondante s'abaisser dans un but de simplification. Et là, le domaine le plus sensible apparaît être celui des normes sanitaires et phytosanitaires en charge de notre alimentation et de notre santé. Il va de nouveau falloir se battre contre les poulets à l'eau de Javel, le bœuf aux hormones et le porc drogué pour abaisser son taux de graisse. Il est d'ailleurs prévu que le lendemain chantant du TAFTA soit le résultat de l'abaissement de 100% des barrières tarifaires et de 25% des barrières non tarifaires. Les barrières non tarifaires, ce sont bien les normes. Ça veut bien dire que les normes de qualité vont s'abaisser de 25%. Alors que l'argumentation pro-TAFTA multimédia promet le contraire. Et en ce qui concerne la fracturation hydraulique, qui est si lourde de menaces pour les nappes phréatiques et l'environnement en général, Total et Exxon, quoique concurrentes, vont défendre ensemble leur intérêt commun en cherchant d'abord à faire changer ou abroger la loi.
Le but du TAFTA est d'harmoniser, d'homogénéiser.
De niveler, oui, de raboter, d'affadir et d'aplatir tous les modes de vie pour produire pire et en plus grande quantité et abaisser les coûts. Ce qui mettrait bien sûr foie gras et culture bio au banc des accusés de la concurrence.
Réactionnaire. La Commission de Bruxelles œuvre à un compromis ménageant les investissements des multinationales et la protection des consommateurs.
Ah oui, tu crois ça? Mais seules les entreprises négocient dans ces compromis auxquels les consommateurs ne sont pas invités. Tout comme la communauté européenne, le TAFTA a vocation à créer des emplois et à dynamiser la croissance. Pour ce qui est de la communauté européenne, il n'y a pas besoin d'un dessin. Hein. À la naissance de la CECA, la communauté européenne pour le charbon et l'acier, au lendemain de la guerre, il n'y avait pas de chômage, et pour cause. Dans les années 70, on a élargi la communauté et on est passé de 1 à 6 millions de chômeurs aujourd'hui en France. Rien à voir avec la taille de la communauté, mais avec l'augmentation des taux de productivité. Revoyez le fordisme si vous en doutez. Ça montre seulement que pour l'Europe, la solution n'est pas dans l'élargissement du marché.
Le TAFTA a déjà été testé aux Amériques avec le NAFTA, le North American Free Trade Agreement.
Ah ben parlons-en. En 1994, le NAFTA, traité donc de libre-échange entre Amérique du Nord et du Sud, promettait plein emploi et réduction des inégalités. Résultat, en 1999, perte d'1 million d'emplois de chaque côté de la frontière mexicaine, soit 2 millions en 5 ans. Et bien sûr, accroissement des inégalités et même baisse des salaires.
Oui, enfin bon, le monde avance et il n'attend pas, Daniel, tu sais. La Commission de Bruxelles a fait établir 4 études de calcul mathématique très élaborées par des spécialistes qui prévoient au moins 2 millions d'emplois créés grâce au TAFTA. C'est la crise et ce sont des spécialistes.
Ah oui, oui, tu vas voir ça. Des prévisions alléchantes qui servent de base de travail à la Commission de Bruxelles, elles sont carrément erronées. D'abord, il y en a 3 sur 4 de ces études qui n'ont jamais promis de création d'emplois sauvant le système actuel. Elles envisagent une hypothétique augmentation du produit intérieur brut à partir d'une situation de plein emploi. On ne parle donc pas du tout de la même chose. On n'a pas de plein emploi, on n'a pas de pouvoir d'achat optimal, c'est pas du tout, on n'est pas sur la même planète.
Oui, mais une croissance pourrait entraîner une augmentation des salaires, de la consommation et donc des emplois. C'est mathématique.
Bien sûr, bien sûr. Sauf que ce n'est pas la situation. Et la 4e étude, elle n'envisage pas d'embauche en Europe, mais seulement au sein de l'OCDE, ce qui est tout de même différent, puisque l'OCDE comprend 34 pays, dont les USA.
Et lesquels? Continue, je t'écoute.
Alors, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, République tchèque, République slovaque, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Slovénie, Turquie, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Israël, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal.
Le monde entier est en mutation. Il faut donner du temps au temps, comme disait quelqu'un.
Oui, tu crois. Certainement, va d'en dire ça aux Grecs. Tous ces bouleversements et ajustements et rétro-pédalages sociaux ne rapporterait qu'environ 1% d'augmentation. 1% d'augmentation du produit intérieur brut à long terme en Europe pour les études les plus optimistes. Ces bienfaits ne seront perceptibles qu'au bout de 10 à 20 ans et laissent donc en l'état, et pour longtemps, le problème des 25 millions de chômeurs européens. Tout ça sans compter les évolutions diverses probables, en particulier les perturbations climatiques, le coût des matières premières, et sans parler de la dette. Ni du fait que les consommateurs ne vont quand même pas docilement se mettre à manger davantage parce que les prix auront baissé.
Et la transition énergétique, tu y penses ? Les principes du TAFTA doivent entraîner une baisse du coût des énergies et donc réduire les charges de production industrielle. Et même en favorisant la concurrence, gaz de schiste contre gaz russe, le TAFTA devrait diversifier ses énergies, principe même de la transition énergétique.
Oui, Madame Thatcher a démontré que la libéralisation du marché de l'énergie n'abaissait pas du tout les prix à la consommation. C'est même le contraire.
Les innovations énergétiques vont naître des échanges et transferts de technologies, Daniel.
Il n'y a que la foi qui sauve. Il semble pourtant que ces technologies soient déjà prêtes, mais que seule manque la volonté politique. La plupart des innovations sont nées d'une volonté politique et de l'urgence, et pas du tout du libéralisme économique. Bon, par exemple Internet, ou le miracle économique de la Corée du Sud, ou encore le New Deal, c'était surtout une situation d'urgence. Seule la volonté politique peut se donner les moyens de lutter contre le réchauffement climatique et favoriser le développement des énergies alternatives. Mais le TAFTA risque d'y voir une concurrence déloyale pour Areva, qui est en plein marasme, pour Exxon, pour Total. Mais rassurez-vous, tout est prévu pour que le TAFTA défende Areva, Exxon et Total et les autres prédateurs de la planète, puisque le TAFTA défend les investisseurs devant les tribunaux arbitraux. Cerise sur le gâteau transatlantique, ces tribunaux spéciaux sont au-dessus des lois et des États. À tous les coups, l'entreprise gagne. Et sans appel possible, ni indemnité aux États reconnus fondés dans leurs droits.
Un grand homme a dit que le gouvernement mondial à venir devrait être dans les mains des entrepreneurs. Ne serait-ce pas mieux ? À voir l'état des finances publiques, l'État a déjà perdu de toute façon.
Le problème est tellement énorme qu'il génère d'importants remous à Bruxelles et ailleurs. Il y a des modifications dans l'air. Mais je me demande s'il faut espérer des modifications de cette organisation des tribunaux arbitraux ou redouter des aménagements qui finiraient par faire accepter le TAFTA.
Daniel, ces tribunaux auront une compétence très fine du fait de leur spécialisation, ce qui garantit leur équité.
Je ne suis pas d'accord. Ces tribunaux arbitraux, désignés comme ISDS, Investor State Dispute Settlement, ces tribunaux arbitraux auront l'exclusivité du règlement des litiges commerciaux entre États et investisseurs. Alors qu'il y a des instances à l'OMC, il y a la Cour internationale de justice. Alors moi, les tribunaux d'exception, tu vois, je m'en méfie. Hein, ils ont en général une sale réputation. Les entreprises s'estimant lésées dans leurs bénéfices futurs pourront porter plainte contre des États qui auraient pris des décisions sanitaires ou environnementales protectrices de leur population. Et tant pis si les dites entreprises continuent alors à mettre la vie et l'avenir des citoyens en danger. Ainsi, comme on l'a écouté tout à l'heure, le NAFTA a permis que les campagnes anti-tabac d'Uruguay et même d'Australie rapportent de coquets dommages et intérêts à Philip Morris. De même, l'Équateur a dû payer 1,77 milliard de dollars à l'Occidental Petroleum, qui ne respectait pourtant pas ses obligations contractuelles et avait causé lui-même la rupture avec le pétrolier. En 12 ans, les plaintes d'entreprises ont été multipliées par 6 et 70% ont été jugées recevables. Alors l'ISDS, les tribunaux en question, en garantissant aux entreprises la continuité du contexte juridique du moment de leur création, empêcheront les États de légiférer par la suite. Tout le pouvoir aux entreprises, y compris le pouvoir législatif en la matière. Le TAFTA ne répond en rien aux problèmes actuels de l'Europe, ni aux enjeux de la planète contre l'urgence écologique, le règlement de la finance, la montée des inégalités et la lutte contre l'extrême pauvreté. Au contraire, il risque bien d'accentuer tous ces problèmes. Alors profitez de la campagne électorale, dans toutes les réunions électorales qui s'annoncent, mettez les partis politiques devant leurs responsabilités et faisons éclater le scandale du TAFTA. Ah !
Merci Daniel, merci pour ce résumé. Donc si jamais vous ne l'avez pas entendu tout à l'heure, il s'agit du résumé de l'ouvrage de Thomas Porcher et Frédéric Farah intitulé « TAFTA, l'accord du plus fort ». Un tout petit bouquin, très très bien résumé, donc il fait une soixantaine de pages, c'est très savoureux. On espère que ça vous a plu, on se reprend dans 5 minutes, il nous restera une petite vingtaine de minutes, un quart d'heure. Pour parler du TAFTA, de façon un petit peu plus précise, on va s'arrêter sur quelques points, et notamment sur cette question des tribunaux arbitraux. Vous êtes d'accord ?
Oui, ouais. Bien sûr, bravo.
tribunaux arbitraux, on va y revenir, c'est un peu le point central qui embête un petit peu tout le monde, et notamment les élus français, on y reviendra. Pour l'instant, on se met encore un petit coup de musique avec Brother Ali, qui est un rappeur américain, et la chanson s'intitule « Uncle Sam, Goddamn », autrement dit « Putain d'Uncle Sam ». A tout de suite.
The name of this song is Uncle Sam, Goddamn. It's a show tune, but the show ain't been written for it yet. We gonna see if Tony Jerome and the band can make it work this shit out for me. Straighten me out right quick. I like it so far, man. Yeah. Come on, let's go. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave, Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and proud. Let's do the shit real, come on now. Smoke and mirrors, stripes and stars, stoning for the cross in the name of God. Bloodshed, genocide, rape and fraud, written to the pages of the law, good law. The cold continent latchkey child ran away one day and started acting foul. King of where the wild things are, daddy's proud, cause the Roman Empire done passed it down. Imported and tortured a workforce that never healed the wounds or shook the curse off. Now the grown-up Goliath nation holding open auditions for the part of David. Can you feel? Nothing can save you. You question the rain, you get rushed in and chained up. Fist raised, but I must be insane, cause I can't figure a single goddamn way to change. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave, the Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave, the Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God. All must bow to the fat and lazy. The fuck you obey me, and why do they hate me? Who me? Only two generations away from the world's most despicable slavery trade. Pioneered so many ways to degrade a human being that it can't be changed to this day. Legacy so ingrained in the way that we think we no longer need chains to be slaves. Lord, it's a shameful display. The overseers even got raped along the way. Cause the children can't escape from the pain, and they born with the poisonous hatred in their veins. Try and separate a man from his soul, you only strengthen him and lose your own. But shoot that fucker if he walk near the throne. Remind him that this is my home, now I'm gone. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave, the Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred and power is God. Welcome to the United Snakes, land of the thief, home of the slave, the Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred. Hold up, give me one right here, hold up. You don't give money to the bums on the corner with a sign bleeding from their gums. Talking about you don't support a crackhead. What you think happens to the money from your taxes? Shit, the government's an addict. With $1 billion a week, kill brown people habit. And even if you ain't on the front line, when NASA yell crunch time, you right back at it.
Man, look at how you hustling backwards. At the end of the year, add up what they subtracted. 3 out of 12 months, your salary pay for that madness. Man, that's savage. What's left? Get a big ass plasma to see where they made Dan rather point the damn camera. Only approved questions get answered. Now stand your ass up for that national anthem. Welcome to the United States, land of the free, home of the slave. The grand imperial guard, where the dollar is sacred and power is God. Welcome to the United States, land of the free, home of the slave. The grand imperial guard, where the dollar is sacred and power is God.
Ce petit morceau là, un air de blues presque, c'est cool. Brother Ali, donc Uncle Sam, God damn, voilà, c'est dit.
Très sympathique le titre en tout cas.
Ouais, donc ce traité, pour en finir avec lui, il nous reste un petit quart d'heure. On peut revenir sur quelques petits points ou quelques gros points, je sais pas comment on peut voir ça. En tout cas, les tribunaux arbitraux, eh bien, je crois que c'est ce qui fait le plus de débats. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, Franck?
Ouais, c'est vraiment ce qui est le plus contesté, quoi. On peut donner l'exemple de l'ALENA, tout simplement. Donc, mm-hmm. l'ALENA, c'est ce qui regroupe, c'est l'organisation donc de l'Atlantique Nord, qui regroupe le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc, dans le cadre de l'ALENA, il y a déjà des tribunaux, de ce qu'on appelle des tribunaux arbitraux, ou encore des mécanismes de règlement différents, quoi. Ça existe déjà, donc, en fait, au sein de l'Atlantique Nord, donc. Et il y a des exemples très, très sympathiques, quoi. Donc, bon, moi, je vais faire un truc, je vais donner les chiffres, en fait. Donc,
vas-y.
Par exemple, le Mexique, il a été attaqué 5 fois par des entreprises américaines parce que ils avaient décidé de, à cause des réglementations, en fait, qui protégeaient les consommateurs pour leur santé ou protégeaient leur environnement, etc., les nappes phréatiques. Et donc, ils ont été attaqués 5 fois par des entreprises américaines et ils ont perdu 5 fois. Donc, 5 procès perdus. Et le pire, c'est le Canada, qui a donc été attaqué 30 fois et qui a perdu les 30 fois. C'est quand même assez incroyable. Que les réglementations étaient jugées comme entraves à la concurrence. C'est tout l'objet des tribunaux arbitraux.
Ouais.
C'est des entraves à la concurrence. C'est-à-dire que si vous bloquez, si une entreprise veut construire un pont, par exemple.
Voilà, j'ai cet exemple-là.
Voilà, il y avait cet exemple. Vas-y, ouais, dis-le, je t'en prie.
Ouais, donc actuellement, il y a 9 firmes US qui ont introduit des actions contre le Canada et qui lui réclament 2,5 milliards. Donc, il y a une 10e plainte qui a été déposée. Et donc, comme tu dis, c'est un plomb qui surplombe la rivière Détroit et donc qui relie la ville américaine du même nom à la ville canadienne de Windsor. Ce pont donc, est très important parce que 25% du commerce total des marchandises entre les deux pays y passe. Alors en fait, ce pont, c'est la propriété d'une firme privée qui s'intitule Détroit International Bridge Company. Et il se trouve que le trafic sur ce pont est complètement saturé. Donc en gros, le Canada a obtenu du Michigan, dont Détroit est la capitale, un accord pour construire un nouveau pont qui sera un édifice public. Donc j'imagine pour désengorger le premier pont. Eh bien, accrochez-vous, la compagnie qui possède le pont existant réclame 3,5 milliards de dollars de compensation au Canada parce qu'elle considère évidemment que la construction du nouveau pont est une sorte d'expropriation de son investissement et qu'elle bénéficie d'un droit exclusif au franchissement de la rivière par un pont.
Ils ont été les premiers arrivés, ouais. Du coup, si on construit un deuxième pont public, même privé,
ouais. Ouais, d'ailleurs, ouais,
c'est une entrave. Enfin, ils vont perdre des sous, leurs profits sont moindres et donc ils peuvent attaquer. Ils peuvent attaquer directement,
c'est
quoi, via des instances d'arbitrage privé. Et il faut rappeler que c'est ceux qui jugent donc dans ces instances d'arbitrage privé, ce sont des personnes privées. Hein. Donc ils peuvent avoir très bien, ils sont dans la juridiction, mais ils peuvent très bien travailler pour des entreprises, etc. Il peut y avoir des conflits d'intérêts énormes. C'est quand même assez incroyable, quoi. Donc, et ce sera totalement opaque, hein. Ce sera à huis clos. Donc, et les décisions sont sans appel. On l'a dit tout à l'heure.
Oui, très important. Ouais.
Les décisions, c'est-à-dire, on a une décision, elle est prise, c'est terminé. On ne peut pas faire appel ou quoi que ce soit.
Ouais. C'est à la différence d'ailleurs de l'OMC, parce que l'OMC fonctionne un petit peu sur cette base-là. Mais avec l'OMC, on peut. Il y a une instance d'appel. Et aussi, avec l'OMC, ces tribunaux-là opposent des États et pas des États contre les entreprises.
Voilà,
en fait.
C'est là toute la logique du traité transatlantique, c'est vraiment que les entreprises, le secteur privé pourra directement attaquer le secteur public qui est en fait le représentant du peuple, quoi, tout simplement.
Parce que j'imagine que même sur le, entre guillemets, au niveau juridique, je ne sais pas s'il y a des degrés, peut-être que l'État n'est pas considéré comme une entreprise avant ça. Enfin, je ne sais pas, mais ça paraît quand même peut-être être un peu au-dessus, puisque l'intérêt public est en jeu.
Oui, ben voilà, c'est ça. Maintenant, on voit que le secteur privé, il va se substituer totalement à une juridiction qui est censée... faire une société cohérente avec des lois,
viable, en fait.
Donc en fait, on peut dire que c'est une privatisation du droit international, tout simplement.
Je pense
que c'est le bon terme. C'est-à-dire que toutes les juridictions nationales seront bafouées et il y aura une instance supranationale au-dessus de toutes les nations. Mm-hmm. Et tout ça, bon voilà, hein, au profit de grandes entreprises.
Et d'ailleurs, il y a un précédent, c'est l'AMI. L'accord multilatéral.
Je voulais finir un petit point sur l'ALENA. Donc, on a vu que le Canada attaquait 5 fois, ils ont perdu 5 fois. Canada attaquait 30 fois, ils ont perdu 30 fois. Mexique attaquait 5 fois, perdu 5 fois contre des entreprises américaines. C'est les entreprises américaines qu'ils ont attaquées. Donc, les entreprises américaines ont gagné. Et il y a eu 22 plaintes dans le cadre de l'ALENA, 22 plaintes déposées contre les USA par des firmes canadiennes ou mexicaines. Et aucune n'a abouti. Donc, ça, est-ce que. Bon, là, je pense que c'est clair. Donc la juridiction américaine est surpuissante. Ils ont une classe juridique. C'est vraiment le pays du droit international, quoi. Ils ont une juridiction tellement puissante que aucune des plaintes d'autres pays ou d'autres entreprises de pays n'arrive à la victoire, quoi, tout simplement.
Quand on dit une classe juridique, entendez pas là une élégance juridique. Attention.
C'est
un gros.
Ils ont.
C'était pour.
C'est ça.
Mais du coup, comme je disais tout à l'heure, il y avait l'histoire.
L'AMI. Oui.
L'AMI. C'est. Je sais plus. Tu m'en parlais la dernière fois.
C'est l'accord multilatéral sur l'investissement.
Voilà.
C'est pareil pour favoriser le libre échange.
Et ça, c'était fin 90.
Ça a été rejeté en 95 par le gouvernement Jospin, justement à cause de ces tribunaux arbitraux. Ils essaient d'imposer ça depuis très longtemps, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire substitution du pouvoir privé sur le public. Enfin, on peut résumer vraiment la chose comme ça, quoi. L'accord multilatéral sur l'investissement, il faut bien comprendre que si ça a capoté ce projet, c'est bien parce que il y a eu un débat public énorme. Enfin, les citoyens se sont pris emparés du sujet et ils en ont parlé vraiment aux leaders politiques, quoi. Ils ont réveillé les leaders politiques qui avaient quand même la conscience qu'à cette époque ça allait être dangereux. Aujourd'hui, on se demande quand même. Il y a très peu de critiques de fond sur ce traité transatlantique. On critique quelques points, etc. Mais est-ce que ce sera utile? En tout cas, le mettre sur la sphère publique, ça paraît essentiel. Parce que déjà, on peut faire juste ça pour l'instant, et ça paraît essentiel pour pouvoir essayer de faire capoter le projet.
Puis du coup, évidemment, l'une des conséquences de tout ça, c'est le drainage de l'argent public, quoi. Déjà qu'on sait que la France est endettée, et plus les décennies passent, plus c'est le cas. Il y a de moins en moins de possibilités de financer le service public, que ce soit dans n'importe quel domaine.
Il y a toujours des possibilités de financer pour payer les entreprises privées. Toujours.
Par contre,
pour enflouer les banques, bon, même si apparemment ce serait plus possible aujourd'hui.
Ouais.
Bon, il y a toujours des sous. Le Canada, dans le cadre de l'ALENA, ils ont payé 226 millions de dollars en tout. Pour payer les entreprises pour leur entrave à la concurrence.
D'accord.
226 millions de dollars américains.
On n'en a pas besoin pour l'instant, en tout cas, de se faire drainer comme ça.
Non, on n'en a pas besoin.
Je ne pense pas. Bon, ce n'est pas encore l'heure du drainage cérébral, mais en tout cas, le drainage budgétaire et économique, c'est parti. Bon, il y a autre chose qui fait peur dans cette histoire-là. Bon, ça, du coup, on va dire que c'est un peu le pouvoir judiciaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi le pouvoir législatif qui est un peu menacé avec cette histoire de coopération régulatrice. Alors, un des points assez embêtants de ces questions-là, c'est aussi le langage qui est assez, je ne sais pas s'il est châtié, mais en tout cas, les juridiques, du coup, on a du mal un peu des fois à le comprendre.
Pour le citoyen lambda, c'est très difficile. C'est pour ça que des personnes, heureusement, qui font vraiment le boulot, ils traduisent et puis ils rendent ça clair pour qu'on puisse comprendre et le diffuser un maximum.
Voilà.
Parce que sinon, c'est fait exprès. Hein. Enfin, après, c'est le vocabulaire.
C'est le droit qui est comme ça
juridique.
Aussi. Ouais.
Voilà, c'est le droit qui est comme ça. Mais aussi, il y a des termes qui peuvent être ambigus, etc. Bon, c'est toujours compliqué. À traduire correctement, quoi. Donc c'est important de vulgariser tout ça pour que tout le monde puisse bien comprendre Et puis voilà, nous compris. Hein.
Oui, évidemment.
Nous ouais, compris, c'est totalement.
Sûr. Et du coup, cette histoire de coopération régulatrice, là, c'est plus sur l'aspect législatif, parce que c'est plus a priori, en fait, par rapport aux normes et aux lois, en ce sens que ce serait les industriels et les élus, donc, ou en tout cas les commissaires européens, qui se mettraient à la même table pour rédiger les lois ensemble. Alors, apparemment, c'est déjà plus ou moins le cas, Franck, tu disais, voilà. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Bruxelles Business, je crois.
Donc voilà, c'est exactement ça, dans Bruxelles Business, qui est un très bon reportage, qui est présent sur YouTube, en libre, totalement. Ouais. On voit très bien que les commissaires européens, ils travaillent en fait avec des lobbyistes, c'est-à-dire qu'il y a des gens du secteur privé qui les aident. Enfin, il y a des exemples très simples, il y a un Portugais qui va travailler au Parlement européen, donc. Et ben voilà, il a besoin de garder ses gosses, les envoyer à l'école, etc. Il y a un lobbyiste qui est là pour lui et pour l'aider à gérer un peu sa vie quotidienne, etc. Et donc ça va créer un petit rapprochement. Donc quand le lobbyiste viendra voir le commissaire européen, il lui prêtera une oreille attentive parce qu'il aura dépanné 2-3 services. Et ça se passe comme ça individuellement en fait. Donc c'est un vrai travail. C'est le soft power. C'est vraiment ça. Ouais. C'est un travail. C'est plus complexe que donner de l'argent directement. Vous voyez.
Ou c'est mettre vraiment, un flingue sur la table.
Voilà. C'est vraiment bon. C'est plus subtil, c'est toujours comme ça. Hein.
Ouais,
c'est
ouais.
Hop, on aide, on dépanne, etc. Et puis prête une oreille attentive pour faire passer telle loi, telle idée, etc.
Ouais.
C'est vraiment comme ça que ça se passe.
Mais sous tous les cieux, ça se passe comme ça.
Oui,
ouais.
Mais normalement.
Le grignotage des sociétés en détresse,
c'est
comme ça.
Mais la corruption avant, c'était vraiment grossier, quoi. C'est ça qui est marrant. C'était vraiment grossier. Aujourd'hui, c'est très subtil et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les mécanismes de comment ça se passe, tout ça.
C'est fait par des gentlemen en cravate, maintenant.
Voilà,
ça
c'est ça.
Mais bon, ouais, non, on en rigole, mais c'est vrai que c'est quand même assez effrayant, quoi. C'est-à-dire.
C'est donc là.
Où est la démocratie?
Dans le cadre du TAFTA, c'était vraiment officiel, quoi. Donc, voilà. Le secteur privé avec le secteur public, on rédige les lois ensemble. Les lois dans le cadre d'une nation, dans le cadre des lois de concurrence, etc. Quoi.
Plus besoin de le faire sur la table,
plus,
là.
Plus besoin de donner de l'argent, de dépanner, de rendre des services un peu à côté, quoi.
Ouais.
Un peu en cachet, on va dire.
Ouais.
Mais là, ce serait vraiment officiel, donc gravé dans le marbre par des traités. Enfin voilà, quoi. Après on pourra rien dire, si ça passe,
ouais.
C'est bien le problème.
On verra en tout cas, on garde une oreille très attentive évidemment à cette question. Aujourd'hui même, on ne peut pas vous dire où est-ce que ça en est, mais si là, dans les prochains jours, on va continuer à enquêter, eh bien, on sait que ça y est, c'est passé, on vous le dira, et on refera une émission. On verra.
Normalement en 2015, hein, ils avaient prévu de signer en 2015, et après il y a la ratification qui prend encore quelques années.
Ouais. Par les députés cette fois-ci.
Voilà.
Par le Parlement, en fait.
Enfin, c'est par les parlements nationaux, en théorie, ça peut passer par le Parlement européen.
Ouais.
Et il faut bien comprendre que ce qu'on dit aussi, il faut le rappeler que beaucoup d'hommes politiques du Congrès américain, par exemple, et même la population américaine,
ouais,
se rendent bien compte que même eux, enfin, en tout cas, la population ne sera pas gagnante. Totalement. Parce que voilà, eux aussi, ils ont du protectionnisme sur certaines denrées ou certains produits industriels, etc., importants, auxquels ils tiennent. Et ce sera aussi tiré vers le bas. Bon, même si c'est eux qui seront globalement gagnants, en tout cas, il y aura des pertes, et ce sera majoritairement, je pense qu'on peut le dire, ce sera pour la population mondiale, en fait, les petites gens, tout simplement.
Ouais, ouais, ouais.
Et il y aura une classe d'hyper riches, d'hyper investisseurs, d'hyper actionnaires, qui récolteront tous les profits.
Ouais.
Donc je pense que c'est un point essentiel.
À moins que le transhumanisme arrive et change tout ça.
Avec le transhumanisme,
avec l'homme nouveau. Ouais.
On fera, tu pourras faire une émission, tu vois, s'il te plaît.
Ça, il n'y a pas de souci, on en fera une aussi.
Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo. A ver si puedo cantar. A medio verso me quedo. Ahora voy a comenzar a ver si puedo o no puedo. A ver si puedo cantar o a medio verso me quedo.
Soy pescador.
Cosa que la mar no tiene. El que vive de esperanza.
viene.
Soy pescador.
Con los míos. Dicen que el mar es grande, agua de todos los ríos, donde se van a juntar tus amores con los míos. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar. Soy pescador, vivo en el mar, ando en busca de un amor que no lo puedo olvidar.
Soy pescador.
Bon, le temps file, on aurait pu parler de plein d'autres choses qui sont dans ce monstre, le taffetas. Bon, il y a la question des OGM, la question des poulets au chlore. Ouais,
voilà. Pesticides, etc.
Pesticides, etc.
J'ai un petit point.
Oui, vas-y.
Il y a un truc aux États-Unis, il y a le principe de précaution. Principe de précaution, ouais, ça c'est européen. Il n'est pas reconnu aux États-Unis. Tant que c'est pas prouvé scientifiquement qu'un procédé ou un produit est nocif, il est libre d'accès. Ça c'est aux États-Unis. Donc ça justifie tous leurs produits en fait que nous on considère comme ahurissants et incroyables. Donc le principe de précaution, il n'est pas reconnu aux USA. En Europe, c'est tout le contraire. C'est quand on n'a pas prouvé qu'un produit ou un procédé est sain, ben il est interdit d'accès, en théorie. Et c'est déjà en théorie, parce que c'est pas tout le temps vrai. Mais c'est déjà bien. Ce sont les règles, quoi.
Bien sûr.
Donc la norme sert de protection et c'est ça donc qui... La norme et la réglementation qui vise à être nivelée vers le bas. Quoi.
Ouais. Je vois que Daniel me brandit la DDH de 1948 comme dernier bouclier, mais je crois que ça ne servira pas à grand-chose parce que c'est vrai que le traité remet pas mal en question ses droits fondamentaux aussi.
C'est ce que vient de dire Franck.
Ouais, c'est exactement ça.
La santé mondiale est menacée par le taffetas et pourtant la santé, c'était le fondement de la Déclaration des droits
bien
de l'homme.
Bien sûr, hein,
exactement.
Et, voilà. C'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment tout ce traité avec toutes les réglementations qui en suivent, toutes nos règles les plus élémentaires seront bafouées. C'est simple, toutes les normes de conditions de travail, santé, alimentation, agriculture, tout sera remis en question.
Puis ça devient presque, j'ai l'impression que ça frôle la folie, quoi, parce que je veux dire, tout ce qu'on demande, c'est pas grand chose, ça paraît être du bon sens, c'est-à-dire être en bonne santé, pouvoir manger de façon décente.
Ça ne rapporte pas.
Mais voilà. Mais c'est-à-dire que le modèle économique développé actuellement est fou, en fait.
Enfin, c'est toute une question philosophique.
C'est loin d'être
le modèle là n'est pas compatible avec une vie saine, hein, parce que ce serait bien, il faut que tu bouffes, que tu sois malade, que tu utilises, tu fasses tourner le système.
On a droit à se reposer le dimanche aussi, peut-être.
Voilà, peut-être aussi. Ouais, ben voilà.
Mais
tu vois, la loi Macron, par exemple, ça descend de la Commission européenne. Hein.
Bien sûr.
La loi Macron, c'est juste l'application encore de flexibilisation, sous prétexte de croissance, de de concurrence, voilà, de gains économiques, tout simplement, on peut tout remettre en question.
Merci beaucoup en tout cas à nos invités. Merci à vous en tout cas, auditrices, auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez comme d'habitude retrouver notre émission, nos émissions sur le www.soundcloud.com/chronicard avec un K. C'est un peu long mais vous connaissez à force. Merci encore une fois à nos invités. Vraiment merci beaucoup.
Merci à vous pour l'invitation.
Merci aux Échos Solidaires. On reste connectés, on reste solidaires de toute façon.
C'est cool.
Merci. Et on se fera votre écho.
Merci à Nathalie.
Peut-être une fois de plus tard. Merci à Nathalie.
En tout cas, bravo pour ce travail.
Merci, vous aussi. C'était très très intéressant, c'est vraiment super. Et j'espère qu'on aura donné des informations pertinentes aux personnes qui nous écoutent.
Ouais. Je crois
c'était le but. Ouais.
Mais il y a intérêt à revenir. Hein.
Ouais, on va se programmer ça. Merci à vous, à très bientôt. On se quitte avec Eminem Without Me, parce que du coup le traité ce sera Without Me.
Ouais.
Without you.
Without us.
Et ouais, okay. Ce sera sans nous en tout cas.
À bientôt, merci.
Au revoir.
I know you're gonna dig this. In 5, 4, 3, 2, 1.
Obi Trice, real name, no gimmicks.
Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside.
I'm on the way.
Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside.
Guess who's back?